Bonjour. Merci. Comment ça va, Marguerite? Bon. Est-ce que tu pourrais, Elsa, lancer le... Ouais, c'est bon, super. Vous allez bien? Semaine fatigante? Bonne semaine? C'est un peu plus... Ouais, j'ai entendu des ouais. C'est bon. Alors, vous savez, on est dans la période du carême. Le carême. Si, le carême, vous connaissez? Non? Bon, pour les deux du fond qui ne connaissent pas, le carême, c'est un temps de prière, de méditation, de jeûne, où on se remet dans le temps où Jésus était dans le désert, dans cette épreuve-là, et le but, c'est de se recentrer ses priorités. Et ça tombe bien parce que je vais parler de ça ce matin, de la tentation de Jésus. Et c'est un message qui fait suite à mes deux derniers messages sur l'intercession et sur le baptême de Jésus, dont on avait vu qu'il n'est pas un baptême de repentance, mais un baptême de consécration, son onction au ministère. Et juste avant de se lancer, il y a cette étape de la tentation que je vous invite à regarder avec moi en Matthieu au chapitre 4, à partir du verset 1. Matthieu 4, à partir du verset 1. Alors c'est un passage qu'on connaît bien, mais je nous invite vraiment à le réentendre, à ce qui résonne en nous de façon différente ce matin. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, Il est écrit, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, Retire-toi, Satan. Car il est écrit, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il été éprouvé? J'ai pris ce passage avec le groupe des 10-13 ans la semaine dernière, et je ne sais plus si c'est Ethan ou Ézéchiel qui m'a posé la question. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas directement dit à Satan de partir? Bonne question. Pourquoi il ne lui dit pas tout de suite, Va-t'en, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi fallait-il que Jésus soit tenté? C'est une question qui peut sembler bête, mais ça fait toute la différence. Alors c'est vrai, il aurait pu ne pas répondre. Il aurait pu faire la sourde oreille, ou il aurait pu lui demander de partir. Mais force est de constater que la confrontation aura bel et bien lieu. La confrontation était inévitable. Alors ce matin, je vais développer trois points qui vont correspondre aux trois tentations de Jésus. Et ce qui est important de comprendre quand on attaque ce type de passage, c'est que depuis le début de son évangile, Matthieu tente de nous faire comprendre que Jésus résume à lui tout seul Israël. Jésus résume à lui tout seul toute l'histoire du peuple d'Israël. Et si on comprend ça, on comprend tout. Je prends un exemple. Vous savez, quand Jésus est né, Hérode veut tuer tous les premiers-nés. Alors Marie et Joseph le prennent, ils le mènent en Égypte. Et dès qu'ils reviennent d'Égypte, Matthieu dira ceci. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et ce verset, c'est un verset de l'Ancien Testament qui parle de la sortie des Hébreux d'Égypte. Osée 11:1, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Donc Matthieu veut nous dire que Jésus reprend l'histoire d'Israël à son crédit. Et puis il le fait de façon plus large. Hein. Jésus était en Égypte, Israël était captif en Égypte. Jésus est sorti d'Égypte, Israël a été délivré d'Égypte. Jésus, en sortant d'Égypte, a été baptisé. Et Israël, en traversant la mer, a été baptisé, nous dit Paul. C'est toute la même histoire. Hein. Jésus, après son baptême, va dans le désert où il sera éprouvé. Israël, après son baptême dans la mer, sera dans le désert où il sera éprouvé. Donc Jésus reprend l'histoire d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. C'est la raison pour laquelle il va passer par la case désert. Et évidemment, il ne va pas faire 40 ans, mais prophétiquement, il va reprendre 40 jours et 40 nuits. Ce qui ne répond pas à la question, pourquoi ? Pourquoi fallait-il qu'Israël ou que Jésus soit éprouvé ? Et là, je vous suggère cette réponse en Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. En d'autres termes, Israël a dû montrer dans le désert sa capacité à ne dépendre que de Dieu. Avant d'entrer en terre promise, Jésus également doit montrer sa capacité à ne dépendre que du Père. À la différence que, évidemment, Jésus inaugure un royaume qui lui va être éternel, un royaume dans lequel on va entrer. Et je pense que c'est ce que représente cette tentation pour nous, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la confrontation entre deux royaumes. Ayez ça en tête. La tentation de Jésus, c'est la confrontation entre deux royaumes qui sont complètement opposés, des royaumes dont les valeurs sont complètement opposées. Et ce matin, ça va nous questionner concrètement, mais quelle valeur te porte le plus ? Est-ce que c'est le royaume de l'ennemi ou le royaume de Dieu ? Alors comme j'ai dit, je vais répondre en trois points qui correspondent aux trois tentations. Première tentation, le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » C'est quoi le problème avec le pain ? Qui d'entre vous ici n'aime pas le pain ? Petit sondage. Il n'y a pas une main levée. Tout le monde aime le pain. Moi, c'est très difficile pour moi de manger un repas sans pain. Très difficile, j'en mets partout. Jésus, il est affamé. On lui propose du pain. Pourquoi c'est une tentation ? Quel est le problème derrière cette tentation ? Et en réalité, ça a l'air de rien ce que dit Satan ici, mais c'est toute une description de la vie sans Dieu. Par ailleurs, Satan n'est pas en train de mentir. Et ça, c'est toute la subtilité de la tentation. Satan ne dit pas un mensonge. Jésus doit manger du pain pour vivre. S'il ne mange pas de pain, il mourra dans son humanité. Donc, Satan ne ment pas, mais il ne dit pas non plus la vérité. En fait, il dit que la moitié de la vérité. C'est pour ça que Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, je vais manger pour vivre, mais pas seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, et ça c'est une valeur fondamentale et une opposition entre le royaume de l'ennemi et le royaume de Dieu, c'est que si je mange pour vivre, je ne vis pas pour manger. Si je mange pour vivre, je ne vis pas pour manger. Toute l'humanité depuis Ève est tombée dans cette tentation. Pourquoi tu vis ? Est-ce que tu vis pour Dieu ou est-ce que tu vis pour manger ? Vous voyez un petit peu comment Satan va s'attaquer à ça. Les besoins matériels sont nécessaires pour continuer de vivre, mais je ne vis pas pour ça. Donc il ne dit pas un mensonge, mais il ne dit pas non plus la vérité. Et la tentation amène de la confusion, parce que Satan ne va pas arriver avec des gros mensonges. Il va tordre la vérité. Quand le peuple hébreu était dans le désert, il avait faim, il avait soif, et Dieu donnait quoi ? La manne du ciel, l'eau du rocher. Mais qu'est-ce qu'a fait le peuple ? Il a dit, on envie les bons repas en Égypte. C'est super. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas su discerner que dans cette manne et dans cette eau, il y avait là la parole de Dieu. Et comme ils ne l'ont pas discerné, ils sont morts spirituellement, précédant leur mort physique. Dans son épreuve, Jésus, il est éprouvé, il a faim, il a soif, mais il a su discerner que la solution à son problème, c'est pas du pain comme on pourrait le manger tous les jours, mais c'est de la nourriture spirituelle. Il ne remet pas en question le fait de manger du pain, mais il dit « tu ne vis pas pour ça ». La différence, elle est fondamentale. De tout temps, et depuis Ève, je l'ai dit, depuis Adam et Ève, l'humanité a chuté parce qu'elle vit pour manger. Et Israël est malheureusement tombé dans le panneau en regardant les nations et en se disant « ils mangent bien eux, hein. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tout confort ». Et puis les dieux de ces nations, ben, c'est aussi des dieux qui vivent pour manger. Ils ont des offrandes. Et Israël aurait dû faire l'inverse. Israël aurait dû montrer quoi? Que dans le désert, affamé, assoiffé, la seule chose qui compte, la seule chose qui donne la vie, c'est Dieu. Israël ne devait pas vivre pour manger, mais vivre pour Dieu. Israël aurait dû montrer dans le désert que seul avec Dieu seul, tout est possible. Et ça, ça aurait dû rendre jalouses toutes les nations du monde. Mais ça a été l'inverse, ils ont été jaloux des nations parce qu'il y avait des bons repas. Oui, tu manges pour vivre, mais tu ne vis pas pour manger. Et voilà Jésus, cet homme Dieu, qui ne vit pas pour manger. Et à partir de ce moment-là, Satan a compris que ça va être difficile de le corrompre. Ça va être très difficile de corrompre un homme qui ne vit pas pour manger. Parce que les circonstances, la faim, la soif, n'auront aucune prise sur lui. Une personne qui ne vit pas pour manger, elle est intouchable. Une personne qui ne vit que par le pain de Dieu, il est intouchable. Et c'est la question que je nous pose ce matin. Qu'est-ce qui fait la pluie et le beau temps dans notre vie? Et est-ce qu'on vit pour manger? Est-ce que ce sont les circonstances qui mènent notre barque? Ou est-ce que c'est Dieu? Est-ce que même s'il n'y avait que Dieu, on serait satisfait? On serait heureux? Israël devait montrer un témoignage hors du commun, le témoignage d'un peuple affamé, assoiffé dans le désert, le témoignage d'un Dieu qui ne quitte pas son peuple des yeux, et le témoignage d'un peuple qui ne quitte pas son Dieu des yeux. Et voilà, le monde s'en est allé, il n'y a plus que eux. Et ils sont heureux. S'ils avaient su être heureux juste avec Dieu, toutes les nations seraient venues avec leur jalousie. Mais ils ont envié les nations. Si vous décidez de ne pas vivre pour manger, mais de vivre pour une histoire d'amour avec Dieu, les circonstances n'auront aucune prise sur vous. C'est aussi simple que ça. Parce que la corruption, elle vient du fait de vivre pour manger. Vous n'aurez plus à envier le monde. Vous ne vivez pas pour ce monde, vous ne vivez pas pour les valeurs de ce monde, mais dans le royaume de Dieu, vous vivez pour Dieu. Si le matériel devient une fin en soi, alors on sera prêt à tout pour y arriver, sans scrupule. Et c'est encore une fois ce qu'Israël nous montre. Les nations alentour, elles font du commerce sans scrupule, on veut faire pareil. Les nations alentour, elles ont un roi, on veut faire pareil. Ils ont des dieux à qui on offrande des offres, on veut faire pareil, on veut tout faire comme eux. On veut tout faire comme eux parce qu'on vit pour manger. Et ça, c'est le paradoxe de l'humanité. Elle pense garder sa liberté, alors qu'en fait, elle est esclave du fait qu'elle vit pour manger. Et vous savez, je veux préciser ça, Dieu ne nous demande pas de tout abandonner pour lui, pour nous embêter. Ce n'est pas le terrible sacrifice qu'il nous demanderait. La vérité, c'est que ce qu'on possède peut finir par nous posséder. Je ne suis pas ma voiture, je ne suis pas mes vêtements, je ne suis pas mon compte en banque, je ne suis pas ma maison. Mais m'abandonner à Dieu, c'est ma seule alternative pour être libre. Si je retiens quoi que ce soit, je ne suis pas libre. Donc ma seule alternative, c'est de tout abandonner à Dieu. C'est pour ça que j'aime pas le terme de sacrifice. Parce que le seul bénéficiaire de mon abandon à Dieu, c'est moi. Dieu, il va bien. Ça, j'aime bien le répéter. Dieu, il va super bien. Il est cool. Il dort bien, il mange bien. Et moi, si je retiens des choses, je vais être loin de lui. Et si je m'abandonne à lui, j'en suis le seul bénéficiaire, le premier bénéficiaire, parce que c'est le seul moyen d'être libre. Donc vous voyez, cette première tentation, elle est énorme. Si Jésus ne vit pas pour manger, il est intouchable. Et Satan, là, il prend une très grosse claque. Il se dit, comment on va faire pour l'atteindre, cet homme? Cet homme ne vit pas pour ça. Et vous savez, Dieu n'est pas contre ce qui est matériel. Il est contre le fait d'être numéro 2. Je fais bien la distinction. C'est pour ça que j'aime pas le mot sacrifice. Parce que Dieu ne t'enlève pas ce que tu as, il veut juste l'amener à la sanctification. C'est trop facile de dire, allez, du coup, je vends tout, puis j'ai plus rien. Non, tu peux garder ce que tu as, mais amène-le à la sanctification pour avoir un bon rapport avec toutes ces choses. Donc voilà la première valeur fondamentale du royaume de Dieu. Tu ne vis pas pour manger, tu vis pour Dieu. Et là, l'ennemi, il est en train de se dévoiler devant Jésus. Toute l'humanité est tombée à cette première tentation. Ce qui nous amène à notre deuxième valeur fondamentale du royaume de Dieu. Et on le voit à la deuxième tentation. Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Là encore, on voit le mécanisme de la tentation, c'est que Satan cite la parole de Dieu. Là, il cite un psaume, le psaume 91. C'est pour ça que je dis qu'il ne va pas venir avec des gros mensonges, il va même peut-être vous apporter la parole. Mais la façon dont il va vous l'apporter, ça va tordre la compréhension, et là, ce sera un mensonge. Si vous voulez, quand le diable nous tente, il préfère la confusion. Confusion, c'est mieux. Quand tu es un peu entre les deux, c'est mieux. Si tu n'es pas clair. Si c'est trop clair que ce n'est pas bon, tu vas pouvoir discerner la chose. Mais s'il y a de la confusion, tu vas dire « Ah, c'est peut-être vrai ce qu'il dit. » Effectivement, il lui dit la vérité. Si tu te jettes, il va te rattraper. C'est la vérité. Alors, il lui propose. Hein, il monte sur le temple. Ils sont à des dizaines de mètres de hauteur. Et je suis d'avis que cette deuxième tentation, c'est le fait que Jésus, s'il se jette, et s'il est rattrapé par des anges, il prouvera au monde entier qu'il est bien le fils de Dieu. Si tout le monde voit que les anges le rattrapent, c'est exactement ce que les pharisiens lui diront sur la croix. Si tu descends, tout le monde saura que tu es le fils de Dieu. Et la discussion est close. Et là encore, on a une valeur fondamentale du royaume de l'ennemi par rapport au royaume de Dieu. C'est que dans le royaume ennemi, ce qui compte, c'est la gloire des hommes. Dans le royaume ennemi, ce qui compte, c'est la reconnaissance humaine. Dans le royaume ennemi, ce qui compte, c'est une gloire éphémère, extérieure, artificielle. Dans le royaume de Dieu, ce qui compte, c'est la reconnaissance de Dieu. Dans le royaume de Christ, ce qui compte, c'est la gloire de Dieu. Alors vous voyez, Jésus ne vit pas pour manger et il ne vit pas pour la gloire des hommes. Deuxième mauvaise nouvelle pour Satan. Je ne vais pas te corrompre par le regard des autres, je ne vais pas te corrompre par les biens matériels. Puisque tu ne vis que pour Dieu. Et force est de constater qu'on est dans un monde où c'est le regard des autres qui nous fabrique. Le monde nous contraint par son regard à façonner, à nous façonner d'une certaine façon, à rentrer dans les normes qui ne sont pas celles de notre royaume. Et vous savez quoi? Les gens, ils se vendent pour manger, ils se vendent aussi pour le regard des autres. On se vend pour tout. L'humanité est à vendre depuis la chute, pour toutes ces choses. Sauf que Jésus n'est pas à vendre. Mince, c'est la première personne depuis toute la création qui n'est pas à vendre. Il n'y a rien à faire, lui. La nourriture, la reconnaissance humaine, c'est pas que ça ne l'intéresse pas, il l'aura, mais pas comme ça. Et ça, c'est une différence fondamentale entre le royaume de Dieu et le royaume de l'ennemi, à savoir que dans le royaume de Dieu, tu ne vis pas pour la gloire des hommes, mais pour celle de Dieu. Et si tu vis comme ça, tu es libre de tout. Tu es libre de tout. Ce qui nous pose encore une question, jusqu'à quel point le regard des autres t'affecte? J'étais sur Montpellier il n'y a pas longtemps, il y avait un groupe étudiant là, d'évangélisation, je discutais avec une amie qui disait « Mais moi, quand il y a un conflit, je suis tellement mal parce que je me dis « Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Et c'est normal. Mais jusqu'à quel point? Ah, je ne dors plus la nuit, c'est une obsession, je pense qu'à ça. Cool Raoul, hein, c'est pas grave. Les conflits, ça arrive, hein, c'est la vie. Jusqu'à quel point le regard des autres va te fabriquer et t'affecter. Et ce que nous dit ce texte, c'est que tu n'as pas besoin de provoquer Dieu pour qu'il te reconnaisse. Il te reconnaîtra par amour, gratuitement, tendrement. Mais pas dans le regard des autres, dans son regard à lui. Garantissant ainsi ta liberté. Il y a des gens qui courent toute leur vie après le regard des autres. On en a vu, notamment dans les sozos ou autres, des gens qui ont construit toute leur vie, et au final, ils se rendent compte que ce n'était pas pour eux. C'est pour faire plaisir à un tel. C'est pour avoir telle reconnaissance, c'est pour avoir telle chose sur le CV. Et puis, ils ne sont pas heureux. Moi, ce qui m'impressionne, ce sont les gens heureux. Parce qu'il y a des gens, quand vous les rencontrez, ils vous disent leur CV. Ah, tout ce que j'ai fait, ok. Et t'es heureux ? Ah, ça, c'est une autre question. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui meurent tous les jours parce qu'ils vivent au travers du regard des autres. Il y a des gens qui souffrent de ne pas être eux-mêmes depuis si longtemps. Ils portent un masque, ils se disent « je vis en fonction du regard des autres ». Jésus nous dit « fais tomber ce masque, sois toi-même, c'est Dieu qui te reconnaît. Cool, cool, tranquille. Lui te reconnaît, il t'aime, son regard ne change pas, tu n'as rien à faire pour que ce regard soit bienveillant. » Donc voilà, c'est normal hein, que le regard des autres nous affecte, mais jusqu'à quel point ? Et Jésus, encore une fois, n'est pas attaquable sur ce point. On lui propose à manger, on lui propose la gloire des hommes. Il dit non, c'est bon, moi je vais m'en passer. Donc cet homme n'est pas corruptible. Et encore une fois, dans ce domaine-là, je crois que ce qui fait symptôme, c'est la peur, le contrôle, quand on veut absolument que les gens nous regardent d'une certaine façon. Personnellement, moi, il y a quelques années, je ne supportais pas un regard malveillant sur moi. Je le vivais très mal. Aujourd'hui, je suis peut-être trop cool, mais je le vis bien. Il y a quelques années, quand je prêchais, c'était l'horreur, parce que les regards sur moi, j'avais du mal. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Ouh là là ! Je vis pour le regard de Dieu. C'est cool, c'est tranquille. Vous voyez comment l'ennemi vient, par le regard des autres, nous attaquer. Donc premier point, je mange pour vivre, mais je ne vis pas pour manger. Deuxième valeur, si tu ne vis pas au travers du regard des autres ou de la louange des hommes, tu seras libre. Ça, je cite un pasteur californien qui disait ça. Hein, si tu ne vis pas au travers de la louange des hommes, tu ne mourras pas de leur critique. Mais si tu sens que tu meurs par rapport à ça, c'est que tu vis au travers du regard des autres. Donc voilà la deuxième valeur fondamentale du royaume de Dieu. Troisième valeur, troisième tentation. Le diable, transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Je vais m'arrêter là. Alors là encore, la tentation est subtile parce que Satan ne dit pas un mensonge. La gloire des royaumes du monde, c'est une promesse qui revient au Messie. Donc en fait, il lui dit « Oui, cette promesse, je m'en souviens, moi aussi j'ai lu la Bible, je sais que le Messie aura la gloire des royaumes du monde. » Donc il n'est pas en train de lui mentir. Il dit « C'est vrai. » Donc il taquine sur quelque chose qu'il va devoir hériter. Sauf qu'encore une fois, il lui dit que la moitié de la vérité, parce qu'en proposant la gloire des royaumes, il va poser une condition. Cette condition, c'est « Tu renonces à ton allégeance envers le Père et tu te prosternes devant moi. Si tu fais ça, tu n'as pas besoin de passer par la croix, je te donnerai la gloire qui te revient. » Et encore une fois, ici, on a un aspect fondamental du royaume de Dieu que Jésus va révéler. C'est que dans le royaume de Satan, vous aurez la gloire si vous servez Satan. C'est-à-dire que dans le royaume de l'ennemi, pour avoir la gloire, il faut servir le chef. Si tu te prosternes devant moi, je te donne la gloire du monde. Dans le royaume de l'ennemi, le chef est celui qui est servi, alors que dans le royaume de Dieu, Jésus le chef est celui qui sert. La différence est absolue, fondamentale, capitale. Dans le royaume des ténèbres, c'est en étant servi par les hommes que tu as la gloire. Le chef est celui qui est servi. Dans le royaume des dieux, de Dieu, Jésus, notre chef, c'est celui qui nous sert. La différence est absolue. La gloire, Jésus l'aura en servant son prochain, pas en étant servi. Le Père, il ne se met pas les pieds sous la table en disant « Vous allez me servir ». Il dit « Je suis à votre service ». Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a besoin de rien et qu'il va bien. Il peut tout faire tout seul. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Besoin de rien. Il a besoin de rien. Mais c'est lui qui donne la vie à tous. Ce qui veut dire que ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Ça veut dire que pour avoir la gloire de Dieu, nous n'allons pas être servis, mais nous allons servir les autres. Nous allons servir notre prochain. Dans le royaume de l'ennemi, la gloire vient du fait d'être servi. Dans le royaume de Dieu, la gloire vient du fait de servir. Et la gloire de Dieu, nous la célébrons parce que nous avons un Dieu qui nous aide, qui nous aime tous les jours. C'est pour ça qu'on le remercie. C'est pour ça qu'il est glorieux. C'est pas parce qu'il se met les pieds sous la table et qu'il dit « Vous allez faire tout ce que je vous demande ». C'est l'inverse. Je suis à votre service. Et même quand je vous demande de faire des choses, c'est moi qui vais les faire au travers de vous. À 100%. Et c'est ça qui rend jalouses les nations. Dans le désert, Israël avait un Dieu qui était à son service. Je te donne à manger, je te donne à boire, je te sers, je t'aime, je te chéris tous les jours. Waouh ! C'est le seul Dieu qui existe, qui est au service de son peuple. Et ça rend jaloux les gens, de voir ce que Dieu fait dans nos vies. Et on le voit dans les témoignages qu'on partage. Tout ce que Dieu fait pour nous, ça rend jaloux les autres, mais la bonne jalousie, hein, j'entends. Notre Dieu est un Dieu qui est à notre service, et la gloire dans le royaume de Dieu vient dans le fait de servir. Jésus s'est agenouillé devant Pierre pour lui laver les pieds. Pierre, il a dit « Non, c'est à moi de le faire !» Non, t'as pas compris. Jésus demande le baptême à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit « Non, c'est à moi !» de recevoir de toi. Il dit « Non, t'as pas compris. Tu n'as pas compris. » Dans le monde, la gloire consiste à être servi. Dans le royaume de Dieu, la gloire consiste à servir son prochain. C'est pour ça qu'on est ébloui par Dieu qui nous sert et qui nous aime. On est ébloui par un Dieu qui a vaincu l'ennemi dès la tentation. Ces trois valeurs-là, il les a remises à leur place. Quelles implications pour nous ? Je vais en partager deux. La première, c'est que Jésus porte cette victoire-là de la tentation. Il la porte à ton crédit. Et je ne sais plus qui a dit ça dans les paroles qui ont été partagées, mais c'est à notre place que Jésus a fait ça. C'est à notre place, c'est pas pour qu'on le refasse. Le diable a été vaincu et il ne te demande pas de ressouffrir de cette épreuve du désert. Alors je dis ça parce que j'ai dit au début qu'on était dans le carême, il y en a qui retournent dans le désert. On va jeûner, on va un peu se faire du mal pour quelque part rejoindre Christ dans le désert. Il a fait à ta place. Il n'a pas besoin de ça. Il a fait à ta place et c'est ça qui est merveilleux. Il y a quelque temps, j'appelais un ami qui est dans un couvent en Italie, un bon ami à moi qui est catho, puis à chaque fois on se taquine bien. Et on parlait de la gloire de Dieu. Et lui, il me dit, tu sais, il n'y a pas de gloire sans souffrance. Et c'est pour ça que nous, catho, on fait le carême, parce qu'on va revivre ces temps de souffrance dans le désert pour rejoindre ensuite Christ dans sa gloire. Alors, c'est beau, hein ? Ça sent bon, il y a quelque chose de séducteur dedans. Souffrir Jésus, comme Jésus dans le désert. Et puis je lui dis, mais attends, il y a un truc qui ne va pas là. Il y a un truc qui bloque. Bon, je suis protestant. Et je ne pense pas qu'on peut comprendre ce que Jésus a éprouvé dans le désert. Il me dit, ah bon ? Je dis, non, je ne pense pas. Il me dit, pourquoi ? Je dis, parce que tu n'es pas Dieu. Puis ce n'est pas le même type de souffrance. Il me dit, mais si, tu vas rejoindre Christ dans sa souffrance. Je lui dis, ah si, il y a peut-être un moyen de comprendre ce qu'il a vécu. C'est si tu deviens Dieu, tu es éternel, parfait, sans péché. Et à ce moment-là, tu quittes la gloire éternelle du Père. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu vas commencer à comprendre ce que c'est de quitter une gloire éternelle, d'aller dans la boue du péché. Et là, tu pourras te comparer à Jésus. Mais sinon, n'essaye même pas. C'est offensant. C'est offensant envers ce qu'il a vécu dans le désert. On ne peut pas comprendre ça. Donc je lui ai dit, tu deviens Dieu, tu quittes la gloire éternelle, tu vas dans la boue du péché, tu prends le péché sur toi. Et là, à ce moment-là, ouais, ça sera intéressant, on pourra se comparer. Mais sinon, essaye pas. Tu ne peux pas comprendre sa souffrance dans le désert. D'autant que c'est à ta place qu'il l'a fait. Donc si c'est à ta place, cool, tranquille, il l'a fait pour toi. Voilà, vouloir se comparer à Jésus dans sa souffrance dans le désert, c'est minimiser forcément la portée de son œuvre. C'est pour ça que j'ai dit dans ce premier point, Jésus porte cette victoire à ton crédit. Cette victoire-là, il te la donne. Il ne te demande pas de la regagner, il te la donne. C'est fait. Ce qui m'amène à ma deuxième application. Satan te tentera. Oui, il y a un combat spirituel, il ne faut pas le nier. Je ne suis pas en train de dire que parce que Jésus nous donne sa victoire, c'est le Club Med. Le Club Med, c'est le royaume de Dieu, mais il est aussi en train de venir. Donc oui, Satan va venir te tenter, te dire que tu as péché, te dire que tu as mal fait. Et là encore, il va vous dire une certaine idée de la vérité. Ah, t'as vu là quand même, ça fait 10 fois que tu tombes pour le même truc, c'est pas cool. Hein. Nous, on a envie de dire, bah oui, c'est vrai, là, ça fait 10 fois que je tombe. Il va venir pour vous rappeler vos péchés, il va venir pour vous rappeler que parfois tu as eu des réactions méchantes, que parfois tu as fait le mal. Et on est tenté de dire, ouais, tu as raison de m'accabler sur ça parce que c'est vrai, c'est vrai. Sauf que la conclusion qu'il va en tirer, c'est de dire, tu n'es pas digne d'être mon fils ou ma fille, tu n'es pas digne d'être fils de Dieu. Et comme il y a une part de vérité dans la tentation, vous allez souscrire à ce discours et vous allez tirer la conclusion qu'il va vous donner. Mais Jésus porte sa victoire à ton crédit dans le désert. Ce qui veut dire que tu n'es pas minable parce que tu as échoué. Jamais, jamais, jamais. Tu es un chrétien authentique et si tu tombes, tu n'as qu'une chose à faire, pas revivre la bataille dans le désert, mais tu brandis la victoire de Jésus. Alors oui, ton péché peut te faire douter, mais tu as une excellente raison d'être sûr de ta victoire, c'est que Jésus met à ton crédit sa victoire dans le désert et à la croix. Il ne viendra donc jamais à l'Esprit de Dieu des pensées de découragement à ton égard. Il n'y aura jamais dans l'Esprit de Dieu des pensées de déception parce qu'il t'a donné sa victoire. Donc résister à la tentation, ça ne consiste pas à jeûner et prier comme si nous combattions à nouveau dans le désert, mais jeûner et prier nous permet de nous rappeler par la foi qu'on a gagné. On ne peut pas revivre la bataille que Jésus a vécue, mais on peut dire « je brandis sa victoire ». C'est la seule alternative qui nous reste. Et le piège serait de retomber dans le combat. C'est inutile s'il l'a fait à notre place. Et il l'a fait à notre place. Il te donne sa victoire à ton crédit. Je dis ça parce que parfois, dans les temps du carême, on peut comprendre le jeûne et la prière comme si on recombattait face à Satan, alors que le combat est terminé depuis longtemps. Il y a des chrétiens qui vont vouloir lutter eux-mêmes. Vite, intercédons, on est en danger. Non, cool, 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 il a gagné. Et si Satan vient te tenter, tu brandis la victoire de Jésus sur ta vie. Il te l'a donnée. La question, c'est est-ce qu'on veut en être héritier ou est-ce qu'on veut se rebattre pour des choses qui ont déjà été battues? C'est pour ça que nous ne devons pas vaincre le diable, mais lui résister dans la Bible. Jésus l'a battu, c'est son affaire. S'il vient nous voir, on brandit la victoire de Christ dans nos vies. Vous le croyez? Vous êtes avec moi? Et quand Jésus a vaincu le diable, il a inauguré un royaume. Vous savez, le peuple dans le désert, il a été éprouvé pour ensuite entrer en terre promise. Et Jésus a été éprouvé pour entrer dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, toutes les normes ont changé. Toutes les normes ont changé. Et on a vu les trois normes, notamment, que Jésus va devoir remettre. Pourquoi tu vis? Est-ce que c'est pour la gloire des hommes? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Et on entre dans un royaume qui est extraordinaire. Et les apôtres avaient compris cela. Ils avaient souscrit aux valeurs de ce nouveau royaume. C'est pour ça que face aux épreuves, face au diable, face aux tentations, ils n'ont pas intercédé pendant 15 heures. Ils ont juste dit, on brandit les victoires de Christ. Au nom de Jésus, tu te lèves. Au nom de Jésus, tu ressuscites. Au nom de Jésus, tu pars. Ils n'ont fait que brandir une victoire qui était déjà gagnée. Ils n'ont pas rejoué une bataille, ils ont brandi leur victoire. C'est pour ça que c'est un peu extrême leur prière. En trois mots, hop, ils font des choses extraordinaires, parce qu'ils brandissent une victoire qui est déjà gagnée. Et dans leur esprit, les normes avaient changé. Le royaume de Dieu était là, et ils vivaient en fonction de normes qui n'étaient plus les mêmes. Et ce faisant, les questions n'étaient plus de savoir si, par exemple, la délivrance ou la guérison était la norme. La question était de savoir quelle est la norme du royaume de Dieu. C'est quoi ce royaume? Comment on vit dans ce type de royaume-là? et les apôtres nous ont montré comment on vit dans le royaume de Dieu. Alors, je nous invite ce matin à réfléchir à ça et à nous demander, est-ce que ce qui nous porte plus, c'est les valeurs de ce monde ou les valeurs du royaume de Dieu? Vous savez, on peut se dire c'est extrême ce qu'ont fait les apôtres, mais ce n'est pas extrême dans le royaume. C'est normal. Est-ce que nos normes ont changé? Est-ce que notre mentalité a été renouvelée? Ou est-ce que parfois, sous une certaine idée de la sagesse, on reste un petit peu à notre place? Et si ce n'est pas le cas, on est mis au défi de brandir la victoire de Christ dans les domaines de nos vies pour lesquels peut-être on ne l'a pas encore fait. Il y a peut-être des domaines dans nos vies où on ne s'est pas dit « Jésus, tu as gagné et je brandis cette victoire. Je ne vais pas recombattre à ta place, mais je vais être héritier de cette victoire. » Alors dans ce temps de carême, vous savez, on n'a pas 36 solutions. C'est soit on retourne dans le désert, tourner en rond, parce qu'on a l'impression qu'on va comprendre des choses que Jésus a vécues pour nous, mais qu'on ne peut pas comprendre. C'est ça que j'ai mis une image... Voilà. Donc soit vous retournez dans le désert, tournez en rond un petit peu. Je crois que j'avais un ami qui disait, en fait, le désert c'est un lieu de passage, on ne s'y arrête pas. Tu peux le traverser des fois, mais tu ne t'y arrêtes pas. Le temps de carême, ce n'est pas un temps où on va rester dans le désert et revivre une bataille qui a déjà été gagnée. Parce que c'est à notre place. Comprenons que c'est à notre crédit qu'il porte ça. Donc de deux choses l'une, soit nous décidons de repartir dans ce désert et on tourne en rond, soit on décide d'entrer en terre promise, tous ensemble pour explorer ce que Jésus a inauguré après cette tentation. Soit on repart dans le désert et on tourne en rond parce qu'on essaie de comprendre ce que Jésus a souffert, soit on essaie de comprendre ce qu'il nous a donné. Et ça, c'est une alternative qui nous est laissée. Amen. Alors je vous invite à vous lever et à mettre ça en action. Est-ce que vous pensez que Jésus porte sa victoire à votre crédit? Est-ce que vous pensez que vous devez revivre la bataille ou juste vous saisir de la victoire? Ok. Est-ce qu'il y a des domaines où vous ne l'avez pas encore fait? Ah, il faut poser la question. Il faut poser la question. Alors je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tu as vaincu le diable. Tu l'as fait. Tu as gagné. Seigneur, merci parce que tu ne nous demandes pas de tourner en rond dans ce désert. Tu nous fais rentrer dans ton royaume. Et dans ton royaume, les normes ne sont pas les mêmes. Tout a changé. Seigneur, je te prie de renouveler notre intelligence pour comprendre que les normes ont changé, que les règles ne sont plus les mêmes et que tout est possible. Et Seigneur, on te remet tous ces domaines pour lesquels on n'a pas encore hérité de cette victoire. Et pour tous ces domaines, on proclame ta victoire, Jésus. Tu as gagné. Pour tous ces domaines, on veut te dire, oui, tout est accompli. Alors Seigneur, on t'offre un sacrifice de reconnaissance. On te dit merci d'ores et déjà et prophétiquement, parce que dans tous ces domaines, on va voir ta gloire. On veut voir ce que tu as inauguré dans ton royaume pour tous ces domaines de nos vies. Sois béni Jésus, sois glorifié. Amen.